Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une section de textes tirés des médias suivants. Le Moniteur acadien, l'Acadie Nouvelle et le Saint-Genois. Au programme, plus de 13 000 Canadiens, dont Yvonne McDonald, dépassent l'âge de 100 ans. Quand le fruit est mûr, Nicolas Parisi et sœur Rita Barrio, main dans la main au service des plus démunis. Et qu'est-ce que le Ramadan? Bonne écoute!
Plus de 13 000 Canadiens, dont Yvonne McDonald, dépassent l'âge de 100 ans. Un texte d'Everard Maillet, paru le 29 mars 2023 dans Le Moniteur acadien. Les citoyens canadiens jouissent d'une meilleure santé et d'une durée de vie plus longue que par les années passées. Selon Statistique Canada, la proportion des aînés au sein de la population canadienne augmente très rapidement. En fait, le nombre de personnes de 65 ans et plus au Canada au 1er juillet 2022 était de 7 330 605. Toujours en 2022, les centenaires d'un bout à l'autre du pays sont devenus de plus en plus nombreux, soit presque 13 500. Au Nouveau-Brunswick, plus précisément, à Rogersville, on peut penser à Flora Thibodeau, 1901-2014, qui s'est éteinte à l'âge vénérable de 112 ans. Parfois, à l'aide de sa marchette, elle se promenait tous les jours d'une pièce à l'autre de sa maison pour ne pas rouiller, disait-elle aux médias. À noter que Mme Thibodeau a connu Mgr Marcel-François Richard, 1847-1915, ce militant acadien de Saint-Louis de Kent, qui a fait adopter le tricolore étoilé comme drapeau national de l'Acadie en 1884. Or, on sait que l'exercice physique, particulièrement chez les aînés, permet de conserver sa force musculaire, sa souplesse et son équilibre, ce qui peut réduire considérablement le risque de chute et de blessure. Et ce n'est donc pas en raison d'une chevelure grise ou qu'on est avancé en âge qu'il faut nécessairement marcher à la dune de Bouctouche dans des sentiers pédestres à Cap-Pelé, à Memramcook ou ailleurs en Acadie pour se dégourdir les jambes et les bras. Des exercices exécutés à la maison ou en plein air, et ce, à son propre rythme, contribue à se tenir en bonne forme et à réduire le stress. C'est pourquoi les foyers de soins pour personnes âgées veillent à ce que leurs résidents pratiquent, dans la mesure du possible, des activités physiques adaptées à leurs besoins et à leur état de santé, pour ainsi les encourager à profiter pleinement de la vie et de savourer les petits bonheurs du quotidien. À titre d'exemple, malgré ses 100 ans, Florine Cormier, de Cormierville, s'adonne régulièrement à des exercices chez elle pour maintenir une santé agréable et une attitude positive. Au Bénèze, à Saint-Antoine, les préposés encouragent effectivement les aînés à participer aux séances de mouvement physique relativement faciles dans le but ultime d'améliorer et de promouvoir leur mieux-être physique et cognitif. Par ailleurs, l'auteur de ces lignes a rencontré, au cours des derniers mois, trois résidents âgés du Bénèze, tous lucides et alertes, qui avaient d'ailleurs accepté d'accorder une entrevue au Moniteur. Patricia Léger, 92 ans, Aurèle Babineau, 97 ans, et, pour l'édition de cette semaine, Yvonne McDonald. Cette dame accueillante, ayant récemment célébré ses 100 ans, est bel et bien une participante active et exemplaire aux yeux des autres résidents. Lors de sa journée d'anniversaire, le 21 février 2023, la centenaire McDonald a même exécuté quelques pas de danse devant ses amis et plusieurs membres de sa parenté. D'autre part, il n'est pas rare de voir Yvonne, derrière sa marchette, enfiler les couloirs d'un pas pressé. En rapport à sa feuille de route, Yvonne est issue d'une famille de 4 enfants à Sainte-Marie-de-Kent. Toujours bien lucide et joviale, elle se souvient d'avoir décroché son premier emploi à l'âge de 15 ans, à Moncton, où elle gagnait un salaire mensuel de 5 $. Quelques années plus tard, en quête de nouvelles opportunités sur le marché du travail, Yvonne et son mari Yvon déménagèrent à Waltham, aux États-Unis. Là-bas, je faisais du ménage dans les maisons et mon mari travaillait dans la construction, dit-elle avec son beau sourire contagieux. Quelques années plus tard, le couple McDonald revint en Acadie pour de bon dans leur patelin à Sainte-Marie. Par ailleurs, la directrice de la résidence aubénaise a beaucoup d'estime pour la centenaire Yvonne McDonald, qui demeure là depuis les 7 dernières années. Nous l'aimons bien, d'abord parce qu'elle est toujours contente, nous résume Linda Leblanc. C'était plus de 13 000 Canadiens dont Yvonne McDonald dépasse l'âge de 100 ans, un texte d'Everard Maillet paru le 29 mars 2023 dans le Moniteur acadien. Quand le fruit est mûr, un texte de Rino Morin-Rossignol paru le 12 avril 2023 dans l'Acadie Nouvelle. Le débat soulevé par la proposition de changer le nom de l'université avec le mot en M bat son plein, notamment dans l'Acadie Nouvelle. C'est plutôt rare en Acadie que tant de gens s'expriment aussi rapidement et spontanément sur un dossier. Pourvu que ça dure. Des gens de partout, de toute origine, de tous les âges, de tous les milieux sociaux, se sentent interpellés par la question. Parce qu'elle fait appel à l'identité, sans aucun doute. Pas seulement l'identité de l'université en soi, mais l'identité de toute la population pour qui l'université est le phare censé éclairer l'Acadie, souvent inquiète de son avenir. Rien d'étonnant dans ce contexte que la réaction populaire soit si forte. Certains se sentent plus à l'aise avec le statu quo. Après tout, le mieux est l'ennemi du bien. Ou, comme disent les enfants de Sheikh Lapoire, « If it ain't broken, don't fix it ». En effet, pourquoi réparer ce qui n'est pas cassé? C'est un dicton facile à comprendre, surtout quand il semble n'y avoir rien de cassé. Mais est-ce vraiment le cas avec le nom actuel de l'université? Ce besoin, ce désir et maintenant cette volonté populaire de donner un nouveau nom à l'université n'attestent-ils pas d'une forme de cassure entre la perception que se fait l'université de la population qu'elle dessert et la perception que se fait cette population du rôle de l'université? Il faut se poser la question: à qui appartient l'université? Aux autorités universitaires ou au peuple acadien? Certes, les autorités universitaires sont mandatées pour en assurer le développement et le rayonnement. Mais au sujet de ce développement et de ce rayonnement, si une fissure s'ouvre et va grandissant entre l'université et la population qui justifie l'existence de cette université, c'est peut-être le signe que quelque chose est cassé. D'où la nécessité de le réparer, non? Dans ce contexte, la lettre de 10 personnalités acadiennes, parue dans l'édition du 3 avril du journal, qui soutiennent vouloir donner une voix à ce que nous croyons être une majorité silencieuse, m'a renversée. Par le fait qu'elles aient été jusqu'ici plutôt associées à une vision progressiste de l'Acadie, et par le fait qu'issues de l'intelligentsia acadienne, elles semblent confondre élite et majorité silencieuse. Mais je reconnais qu'elles ont pris la peine d'écrire ce que nous croyons être une majorité silencieuse, une nuance qui est tout à leur honneur, puisqu'en réalité, personne ne sait ce que pense vraiment la majorité silencieuse de l'Acadie, étant donné qu'elle est silencieuse justement. J'en comprends que, dans l'esprit de ces 10 personnalités, cette éventuelle majorité silencieuse s'opposerait donc à une minorité bruyante. La même minorité qui a pondu plus de 1200 signatures en une semaine du jamais vu et qui ne tarit pas de palabres dans les pages du journal. Ça aussi, du jamais vu. Ce qui me déconcerte dans cet argument des personnalités, c'est que la plupart d'entre elles ont œuvré vaillamment pour que la notion de majorité ne soit pas l'étalon d'or sur lequel doivent impérativement s'aligner la minorité au New Brunswick. Je trouve donc très étrange qu'elles aient recours au même argument envers leur propre communauté linguistique que celui qu'utilisent trop souvent de féroces porte-paroles anglophones envers les francophones pour leur refuser quelque chose. Qu'on pense au principe de l'égalité des langues officielles et de l'égalité des communautés linguistiques officielles. Jusqu'à la parution de cette lettre, ces principes reconnaissaient bien que, malgré son statut désavantageux, une minorité peut avoir raison d'exiger que soient prises en considération de façon proactive ses doléances et ses aspirations. Bizarrement, la lettre laisse entendre qu'il existerait au New Brunswick, à l'intérieur de la minorité linguistique officielle, une sous-minorité officieuse assujettie à une élite, une intelligentsia ou une majorité silencieuse dominante, qui, elle, mène les vraies affaires au nom du peuple. Cette notion qui fut bien utile à l'époque où l'Acadie émergeait des limbes historiques, n'est plus justifiable aujourd'hui, particulièrement après les 60 ans de défrichement intellectuel et de labourage des consciences que l'université vient d'accomplir avec brio dans la communauté francophone du New Brunswick. Dans leur argumentaire, les 10 éminentes personnalités affirme que le changement de nom de l'université porterait atteinte au legs de ses fondateurs. Elles admettent toutefois que ce nom a été choisi de peine et de misère, reconnaissant implicitement que le nom actuel a fait l'objet d'un compromis nécessaire à l'époque. Raison de plus d'en questionner le bien fondé en 2023. Si les fondateurs, subitement redevenus nos contemporains, devaient choisir un nom aujourd'hui, dans un contexte politico-linguistique à mille lieues de ce qu'il était alors, rien n'indique qu'ils opteraient résolument pour ce nom. On ne peut pas parler à leur place. D'ailleurs, les fondateurs ont eux-mêmes démontré qu'ils n'avaient pas de réticence à renommer les collèges et universités du temps. Je doute que Louis Robichaud et Clément Cormier aient eu de profonds scrupules à porter atteinte aux legs des fondateurs des collèges Saint-Louis, Sacré-Cœur et Saint-Joseph en faisant disparaître ces noms, pourtant emblématiques d'une œuvre d'éducation déterminante pour l'Acadie. Et à ma connaissance, personne n'a entendu le père Camille Lefebvre, fondateur du collège Saint-Joseph, se retourner dans sa tombe. À différents âges marquants de la vie, on fait un bilan. Cette année, c'est l'université, avec le mot en M, qui est appelée à faire son bilan. Le bilan permet d'évaluer le chemin parcouru, les écueils rencontrés, les victoires remportées. Moment idéal pour le changement. C'est dans cette optique que le changement de nom de l'université s'est amené presque de lui-même dans le débat public. Il n'a fallu que d'une étincelle pour embraser toute la communauté. Ces signes ne mentent pas. Ils disent une vérité qui n'attendait que son heure. Nous y sommes. La lettre des 10 personnalités, comme toutes les autres parues dernièrement à ce sujet, qu'elles soient pour ou contre, atteste que le fruit est mûr. Hein, madame? C'était, quand le fruit est mûr, un texte de Rino Morin-Rossignol, paru le 12 avril 2023, dans l'Acadie Nouvelle. Nicolas Parisi et sœur Rita Barriot, Main dans la main au service des plus démunis, un texte de Damien Dauphin, paru le 12 avril 2023 dans le Moniteur acadien. Ils ne sont plus de ce monde, mais ils avaient à cœur leur communauté et n'ont jamais ménagé leur temps ni leurs efforts pour venir en aide aux gens infortunés. Récit d'une belle rencontre, celle de la fondatrice de la Maison Nazareth et de celui qui fut pendant un an et demi président du conseil d'administration de cet organisme. Nos itinérantes et itinérants sont très reconnaissants à notre endroit. Ne craignez pas, ils font tout pour nous aider et nous protéger. Certains d'entre eux nous affirment déjà que l'esprit du lieu est en train de passer de la violence à plus de paix et de la tristesse à plus de sérénité. Ainsi s'exprimait sœur Rita Barriot il y a tout juste 3 ans, en avril 2020, au cours d'une entrevue à la Maison Nazareth, rue Albert à Moncton. À ce moment-là, l'heure était au confinement, en pleine première vague de pandémie de COVID-19. Près de la moitié des employés et des bénévoles de l'organisme caritatif avait déserté les lieux, mais pas la fondatrice, revenue dans la région un an plus tôt à l'appel du directeur général Jean Dubé. J'ose vous dire, au risque de vous surprendre, que je ne cesse de bénir le Seigneur à cause de cette crise de COVID-19 qui nous oblige à respecter les normes raisonnables de propreté, poursuivait-elle. Lorsque la pandémie a éclaté, le site d'hébergement pour sans-abri rue Albert venait d'ouvrir au public tout juste 2 mois plus tôt. En mode gestion de crise, il a fallu s'adapter rapidement. La Maison Nazareth manquait de tout, mais certainement pas de bonne volonté. Les premiers mois, le gel hydroalcoolique et les masques étaient rares. Malgré cela, le refuge a traversé les premières vagues sans déplorer un seul cas de contamination. À côté de la pieuse apôtre des gens défavorisés, l'entrepreneur Nicolas Parisi apportait une expertise très terre-à-terre. Élu président du conseil d'administration en décembre 2019, il prenait son rôle très au sérieux. Durant la crise sanitaire, il se passait rarement une journée sans qu'il aille faire un tour au refuge, ne serait-ce qu'un quart d'heure, pour s'assurer que tout allait bien et distribuer des encouragements. Il s'émerveillait de la prodigieuse énergie que déployait sœur Rita, une petite femme de 85 ans. « C'est une sainte », disait-il alors à ses proches. « Ce qu'elle fait est merveilleux. Ce sont des personnalités exceptionnelles comme elle qui incitent les gens à s'engager dans l'action bénévole afin de rendre le monde plus juste et plus humain. » Terrassé par un AVC, Nicolas Parisi est décédé subitement le 6 avril 2021 à l'âge de 45 ans. Une semaine plus tôt, toujours en recherche de solutions, il était encore sur tous les fronts pour défendre la mission de la Maison Nazareth devant les différents paliers gouvernementaux. 2 ans après, il m'arrive encore d'avoir du mal à réaliser qu'il n'est plus là. Je sens sa présence. Il y a tellement de choses qui me font me souvenir de lui. Il a fait beaucoup de bien à sa communauté et je sais qu'on ne l'oubliera jamais, confie Ghislaine Brun, sa conjointe. Sœur Rita Barriot s'est éteinte à son tour en septembre 2022, au terme d'une vie bien remplie qu'elle a consacrée au service des plus démunis. 40 ans la séparaient de Nicolas Parisi, mais tous deux se comprenaient. Ce tandem intergénérationnel, guidé par un profond respect mutuel, a semé des graines d'espoir et de générosité dans son sillage trop bref. C'était Nicolas Parisi et sœur Rita Barriot, main dans la main au service des plus démunis, un texte de Damien Dauphin, paru le 12 avril 2023 dans le Moniteur acadien. Qu'est-ce que le Ramadan? Un texte d'Austin Johnson, paru en 2022 dans Le Saint-Janois. Chaque année, les croyants du monde entier accueillent le mois sacré de la Révélation avec un désir renouvelé de rechercher la proximité avec leur Créateur. C'est un mois qui est censé avoir un potentiel plus élevé d'ouverture spirituelle. Il est recommandé aux musulmans de s'ouvrir à cette abondante source des bénédictions pendant ce mois sacré en faisant des efforts intentionnels pour se desserrer de l'emprise du monde matériel en se concentrant et en nourrissant leur âme par des actes d'adoration et de dévotion. Le Ramadan est le 9e mois du calendrier islamique qui est basé sur une année lumière de 12 mois d'environ 354 jours. Parce que l'année lunaire est de 11 jours plus courte que l'année solaire, le Ramadan se passe 11 jours plus tôt chaque année. Au cours de ce mois, les musulmans jeûnent de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Jeûner pendant cette période ne signifie pas seulement s'abstenir de manger. Jeûner pendant le Ramadan signifie renoncer à la nourriture, à l'eau, au tabac, au chewing-gum, etc., dans le but d'acquérir de la discipline, de la maîtrise de soi et de faire un effort conscient pour faire le bien. Une journée typique du Ramadan consiste à se réveiller vers 3h30 pour le repas de l'aube, à remplir ses devoirs de prière du matin et, selon les circonstances, à se recoucher ou à commencer sa journée. Les rassemblements communautaires et interconfessionnels pour rompre le jeûne sont courants. De nombreuses familles vont à la mosquée pour la prière de fin de soirée et rentrent chez elles vers minuit, selon la période de l'année. L'Aïd al-Fitr pour célébrer. À la fin du Ramadan, les musulmans célèbrent l'une de leurs principales fêtes, appelée Aïd al-Fitr ou fête de la rupture du jeûne. Les enfants reçoivent traditionnellement de nouveaux vêtements, de l'argent ou des cadeaux de leurs proches. La salutation typique au début du Ramadan est Ramadan Moubarak ou Ramadan béni. La salutation de fin de Ramadan est Eid Moubarak ou béni Eid. Les gens se demandent souvent s'il y a des difficultés que l'on rencontre pendant la période de Ramadan. Il peut y en avoir, mais il faut dire qu'il y a aussi beaucoup de moments de joie du fait que les musulmans sortent du mois béni après avoir renforcé leur pratique de dévotion, approfondi leur relation avec le Coran et redécouvert la pratique prophétique de la vie holistique. Nous espérons que le Ramadan a illuminé nos chemins vers celui qui est la lumière des cieux et la terre. Pour retourner à notre source, la source de la paix, avec un contentement intérieur et de meilleurs outils pour vivre dans un monde plus pacifique. C'était « Qu'est-ce que le Ramadan ?» un texte d'Austin Johnson, paru en 2022, dans le Saint-Janois.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Lynn Lamarche à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.